Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec Lost Country. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Et bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Eh bien, on a encore dans notre studio,
encore.
Décidément, je pense qu'il va prendre un abonnement. Hein. Bonjour Lucas.
Salut à tous.
Ça va Lucas Brasier?
Ça va bien, tranquillement.
Tu as été à une avant-première d'un film qui s'appelle Lost Country. C'était le lundi 3 octobre à 9h30 du matin à l'American Cosmograph. Tu as pu découvrir le film. Et puis, après, tu as pu faire la rencontre du réalisateur le mardi 3 octobre en conférence de presse. Et j'imagine que ça devait être un super moment avec Vladimir Perisic.
C'est ça, exactement. C'était un film très intéressant qui retraçait un petit peu les tensions qu'il y a pu avoir en Serbie. C'est-à-dire qu'à un moment, le régime a fait des élections qui n'étaient pas en leur faveur et ils ont décidé un petit peu de truquer les élections. Et toute l'histoire du film, c'est ça, c'est de voir un petit peu cette montée en agacement de la part du peuple qui va petit à petit mener des actions pour essayer de se soulever et potentiellement renverser le régime au fur et à mesure.
Alors justement, hein, tu nous as un petit peu parlé du synopsis, mais je vais un peu plus creuser. C'est Serbie, 1996, dans le feu des manifestations étudiantes contre le régime de Milošević, déchiré entre ses convictions et l'amour qu'il porte à sa mère, porte-parole du gouvernement, Stefan, 15 ans, mène sa propre révolution.
C'est ça, et on voit ce personnage évoluer tout au long de l'histoire et voir son entourage, les camarades de classe qui sont un petit peu pour une rébellion et dire que c'est pas normal, lui qui commence petit à petit à se dire qu'ils ont sûrement raison, mais d'avoir d'un autre côté à la maison une mère qui est un poste très haut placé dans le gouvernement actuel, donc il y a cette dissonance en fait entre les deux personnages qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs à partager.
Alors, je le disais, hein, grâce à l'invitation de Jérémy, le directeur du cinéma L'American Cosmograph, tu as pu rencontrer le réalisateur Vladimir Perisic en conférence de presse avec nos confrères.
C'est ça, et on a pu discuter, échanger et parler sur le film, et c'était super intéressant.
Eh bien, vas-y.
Eh bien, tout d'abord, on lui a posé une question sur le fait qu'il montre dans le film les tensions qu'il y a pu avoir en Serbie à cause du régime de Milošević, qui ne souhaitait pas respecter les votes des citoyens et donc garder le pouvoir. Et dans le film, il fait le choix de parler d'une partie de cette histoire, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'à la partie des affrontements et de la résolution de ce problème, voir ce qu'il en a devenu. Et du coup, on lui a demandé pourquoi avoir fait ce choix. Voici sa réponse.
C'est un peu plus compliqué ce qu'on a fait au scénario, c'est-à-dire la contre-manifestation qu'on voit dont la fin du film, elle s'est passée un mois plus tard. Voilà, donc j'ai quelque part condensé les événements. D'une part, parce que j'aime bien quand le drame est ramassé en quelques jours. Et je préfère les films qui traitent d'une journée ou de quelques journées. Je crois pas que j'ai une veine romanesque. Et je pense aussi que ça vient du fait que pendant longtemps, je n'arrivais pas à faire sens de ce qui s'est passé dans les années 90. Or, le récit, c'est faire sens, c'est faire récit, c'est faire sens. Donc, je traitais une journée, deux journées, trois journées, quelque chose plus dans l'esprit de la nouvelle vague. De deux, je n'avais pas l'argent pour les manifestations. Aussi simple que ça. Voilà. Et même si j'avais eu la reconstitution, sur historique n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je peux avoir énormément de patience à accueillir un geste, une expression de visage, d'attendre la lumière, mais passer du temps à s'occuper de, je sais pas, 1000 manifestants, figurants, je trouve pas vraiment le... Ça me donne un côté antiquaire ou poussiéreux. Et là, je voulais un drame intime et observer comment la politique influe sur nos relations quotidiennes, d'une part, et puis j'ai toujours, en grandissant dans les années 90, On a eu quatre guerres, la guerre avec l'OTAN. J'avais toujours ce sentiment d'un énorme thriller hollywoodien qui se passe, mais que moi, je ne le perçois que par des petites traces, d'une façon indirecte. Je savais que c'est là, et en même temps, ce qui entrait dans mon champ de vision de ce que j'avais vraiment vu en tant que témoin était très réduit. Même si les manifestations, je les ai faites. Celles-ci, mais par exemple, sur le siège de Sarajevo, Srebrenica, le Kosovo, c'était quelque part hors champ. Et donc on voyait le avant, l'après, le à côté. Et je trouvais ce point de vue intéressant, et surtout par rapport au point de vue de l'enfant, de faire comme une sorte de thriller qui est vu depuis la chambre de l'enfant de cette porte entrebâillée. Et ça me permettait aussi de travailler une petite forme, pas la grande forme de la représentation, mais disons cette petite forme, et pour laquelle aussi j'avais les moyens, parce que si j'aurais voulu faire quelque chose, les manifs, je crois que c'est la plus longue manifestation étudiante de l'histoire de l'Europe, parce qu'on doit être 3 mois et demi. Voilà, donc si j'étais entré dans une reconstruction de ça, ça aurait... Mais déjà, ça aurait donné un tout autre film. Et j'avais pas les moyens, j'aurais jamais pu bloquer les rues. Voilà, donc...
Dans ce film Lost Country, qui retrace les manifestations étudiantes contre le régime de Milosevic, est-ce qu'il l'a fait comme un besoin de transmission ou est-ce plutôt une forme de thérapie pour lui? Voici son point de vue et ce qu'il nous a répondu.
Je crois que c'est les deux. Il y a toujours une part... je pense profondément qu'il y a une part thérapeutique dans tout travail d'art. On n'échappe pas, mais ça ne veut pas se réduire à que ça. Qu'il y a une sorte d'exorcisme. Je crois que même quand je suis arrivé à j'oublie, il faut que je me rappelle, mais quand je suis arrivé à Paris pour des études d'abord de littérature, j'avais acheté un recueil de poèmes de Michaud, et je crois que ça s'appelle vraiment Exorcisme. Donc en venant de cette Yougoslavie, j'ai tombé, ça m'avait atterri, il faut que je retrouve, ça fait longtemps que je n'ai pas relu Michaud. Transmission, non, je ne dirais pas transmission, je pense que ce que j'essaye, c'est d'analyser les techniques de gouvernement et de pouvoir dans les années 90. Et il y a ce film de Rossellini... La prise de pouvoir de Louis XIV, qui est une analyse incroyable d'un coup d'État. C'est dans la série des films qu'il a fait pour la télé, je l'avais découvert grâce à Jean d'Harmonie à la Fémis. Il avait cette vocation un peu pédagogique, Rossellini, quand il a voulu passer à la télévision. Le pédagogique, c'est pas quelque chose qui dans l'art m'intéresse, mais analyser, comprendre quelles sont les méthodes de gouvernement, parce qu'elles sont extrêmement perverses. Mais vraiment. Et sur ça, je pense que je l'ai fait vraiment d'abord, c'était une sorte d'autodéfense. Ça commençait comme une autodéfense, et ensuite, plus je comprenais, je me disais, mais c'est des mises en scène. Et quelque part, il y a ce super film de Hsu Hsien, The Puppet Master, sur l'histoire du Taïwan, et ce sont des mises en scène, et je me dis presque en tant que metteur en scène, mon travail, c'est de les donner à voir aux spectateurs, de les démonter. Et voilà, donc je crois que c'est plus ça que cette dimension de transmission, que et Ordinary People et ce et Lost Country, j'ai essayé, à part qu'il y a toujours quelque chose qu'on veut toucher le spectateur.
Bien sûr, montrer.
Il y a aussi cette part d'une sorte de pas d'apprendre à voir, parce qu'il y aurait quelque chose d'être celui qui sait ou d'une supériorité, mais de donner à voir, ça je suis sûr.
Dans le rôle de Stéphane, nous avons Jovan Jinić et on voulait savoir un petit peu comment s'est passée la sélection et la préparation de cet acteur qui joue donc le rôle principal, et le réalisateur Vladimir Perisic nous répond ceci.
J'en ai vu 2000 et surtout j'ai passé un an à l'observer, parce que tout ce qu'il fait avec les noms acteurs, je leur donne jamais le scénario. Et donc ils savent, et dans le cas des enfants, les parents savent quel est le sujet pour qu'ils sont consentants, mais ils ne peuvent pas jouer. Donc il ne faut pas leur donner le scénario, parce que s'ils se mettent à jouer, ils deviennent très mauvais. C'est parce qu'ils n'ont aucune formation. C'est une erreur.
Bien sûr, de début.
Vous êtes perdu. S'ils commencent à penser qu'il est acteur pendant le tournage, vous êtes mort.
Bien sûr.
Donc il faut l'empêcher. Il faut aussi empêcher l'équipe qui est habituée à faire des films, de lui applaudir, de dire c'est très bien. C'est un travail vraiment de infernal. Parce que s'ils commencent à penser qu'il est acteur, je suis suicidé. Parce qu'il n'est pas. Voilà, donc je tourne dans l'ombre et je les laisse toujours libres de réagir. Donc s'il y a des choses qu'ils refusent, qu'ils disent non, moi j'aurais pas réagi comme ça, je leur impose jamais. Et par contre, je les observe pendant presque un an avant, où je les filme, je les écoute, je les enregistre comment ils parlent. En fait, je réécris le scénario à partir de ça. Donc quand j'entre en tournage, je sais que tout ce que je vais lui demander de faire, je l'ai plus ou moins vu. Qu'il n'interprète pas, il incarne le personnage. Voilà. Donc il y a tout ce travail en amont, mais néanmoins, je pense que malgré tout ce travail, cette méthode qui permet qu'ils sont justes, je pense qu'il est exceptionnel. Il m'a surpris, il a dépassé mes attentes.
Quelles ont été ses inspirations pour réussir à écrire et créer en profondeur cette relation mère-fils avec une mère, comme je le disais, qui fait partie du régime actuel et un fils qui est contre les agissements du gouvernement? Voilà comment il a fait pour s'inspirer et réussir à retranscrire au mieux cette relation mère-fils.
Ma mère était dans la politique. Donc ma mère était dans le parti de gauchisme, elle a travaillé dans la culture. Et en fait, donc je viens d'une famille des deux côtés. Grand-père, grand-mère, maternelle et paternelle, c'est des Yougoslaves communistes. Je veux dire, moi, être serbe-croate, quand en 91, il fallait se réclamer, moi, je ne sais pas qui je suis. J'étais Yougoslave communiste, athée. Donc, les religions, tout ça, je ne l'avais pas. Ma mère était prof à Lyon, et on est rentrés. Et ils l'ont appelé de rejoindre le Parti Socialiste. Elle a fait une confusion en croyant que c'est le Parti Socialiste. Et les événements du Kosovo, comme Milosevic y allait pour la première fois au Kosovo, se sont passés pendant que nous, on était à Lyon. Donc il y avait une confusion et une part de son déni venait de ça, qu'elle était convaincue que Milosevic une continuité avec cette histoire de gauche yougoslave et qu'il défend la Yougoslavie. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'intellectuels qui se sont trompés. Comme Kusturica aussi, il a fait cette erreur. Et puis, ils ont eu énormément... Ils n'arrivent pas à l'admettre, parce qu'elle est énorme. Voilà. Mais pour moi, c'était très difficile de... C'est ça qui était compliqué. Tu viens d'une tradition...
Bien sûr.
J'ai un grand... le père de mon père a organisé... Ils étaient 7 à organiser l'attentat sur le chef du camp de concentration de Belgrade. Il n'y a eu que 2 attentats, à Prague et à Belgrade. Et ensuite, il était arrêté et fusillé par les nazis. Donc, l'ADN sur lequel je suis construit est cette tradition antifasciste. C'est vraiment... Et la difficulté, c'était de se retrouver venant de cette histoire-là avec des crimes qui sont fascistes. Quelque part, je veux dire, c'est hors discussion, mais, parce que je ne voudrais jamais relativiser, mais ça aurait été compréhensible si c'était des crimes de classe, par exemple. Il y aurait au moins une logique. Là, le problème, c'était que c'était une vraie schizophrénie.
Pour terminer sur une anecdote originale, le fils Stéphane a un surnom pendant tout le film qui est donné par sa mère. Et la traduction, c'est « Ma petite remorque ». Pourquoi cela? Le réalisateur nous apporte cette réponse, et la voici.
Et ça me revient sur tout l'avant-première. Alors, j'ai fait appel à 3 traducteurs. Ils n'ont rien trouvé de mieux, ni moins. En fait, c'est un dessin animé qui existait à l'époque yougoslave, Nikolica et Prikolica. Nikolica, c'est Nicolas, petit Nicolas. Et Prikolica, c'est petit remorque. Ça rime. Et c'est une sorte de Snoopy et Charlie Brown.
D'accord.
Et comme c'était très populaire, il y avait cette habitude d'appeler les enfants Prikolits. Et quand Yasna et Jovan, ils n'ont pas répété, mais je les amenais beaucoup à la maison de campagne, on passait une ou deux journées. Comme ça, rien faire. Juste nouer ce rapport intime entre elle et lui, dans cette maison. Et Yasna s'est mis à l'appeler ma petite remorque.
D'accord.
Du coup, c'est devenu leur relation, ça m'est beaucoup plus sur le moment. Et en fait, c'est que quand je suis arrivé au montage, à Paris, je me dis, aïe, comment je vais le traduire ? Voilà, j'ai pas pensé. C'était juste sur la relation. Hein. Je pense que ça fonctionne.
C'est très original, hein, ma petite remorque.
Oui, c'est. Et l'explication tient debout et on comprend mieux pourquoi. Mais c'est vrai que quand il y avait les sous-titres et que du coup, j'ai vu écrit ma petite remorque, je me suis dit, ah, ça doit être un surnom affectif serbe.
C'est tout à fait le cas, j'ai l'impression. Bon, et donc, les gens l'ont découvert le mardi 3 octobre à 20h30. Il y a eu un débat du film avec le public et il sort ce mercredi 11 octobre. Aujourd'hui, ça y est, c'est la sortie du film. T'as hâte de savoir ce qu'en ont pensé les gens?
Bah oui, ça permet aussi de découvrir l'histoire d'un pays. En tout cas, personnellement, je connaissais pas forcément l'histoire de la Serbie. Et ça m'a fait penser à d'autres films comme un petit peu Goodbye Lenin dans l'idée, mm-hmm. qui permet d'en savoir plus au-delà de ce qu'on peut dire de loin, comment ça se vit de l'intérieur et quels sont les modes de pensée, quelles sont les évolutions dans la tête des gens, comment ils réfléchissent, comment ils essayent de s'en sortir. Et du coup, je trouvais ça très intéressant, le point de vue qu'il a décidé de prendre. Et aussi, il a fait un choix dans le film, c'est celui de ne pas montrer la violence directement ou très très peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les affrontements, comme j'ai dit, il n'y a pas forcément une guerre civile qui éclate. Et la violence est majoritairement silencieuse. C'est-à-dire que c'est beaucoup par des discussions, de la télé, de la radio. Enfin, c'est interposé et on sent l'évolution de la tension sans la voir forcément réellement via des combats physiques.
Alors, tu nous as parlé du réalisateur, Vladimir Perisic, mais aussi de Stéphane. Qui est joué par Jovan Djinic, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Il joue l'enfant, donc il a une quinzaine d'années. Et c'est super intéressant donc, de voir aussi son rapport aux autres, parce que comme sa mère est dans le régime et que les camarades de classe le savent, on voit que au fur et à mesure que l'histoire s'envenime avec le gouvernement, il se fait un peu mettre à l'écart, il est moqué, il subit du harcèlement à cause de sa mère indirectement. Et du coup, c'est assez intéressant de voir le personnage évoluer autant dans son rapport aux autres que dans son rapport avec la relation qu'il a avec sa mère.
Et la maman est jouée par Djana Djuricic, qui joue le rôle de Maclena.
C'est ça, exactement.
Bon, il y en a d'autres. Hein. Je ne sais pas si tu veux nous parler d'autres personnages qui t'ont touché sur le film.
Il y a peut-être son grand-père, Stéphane, qui est donc le père de sa mère, du côté de sa mère. Et en fait, il a eu un poste très important dans le gouvernement, ou du moins il était pro, il soutenait énormément le gouvernement. Donc c'est assez original, étrange, intrigant de voir, parce qu'il y a une véritable dissonance, en fait, entre le fait que 99% de la population veut se révolter, veut enlever le régime en place, et il y a des scènes de repas de famille où on le voit lui avec sa mère et donc son grand-père à dire « Ah, c'est bien, ils ont remporté les élections légalement, ils sont trop forts, il faut maintenir le régime en place et faire taire la révolte. » Et du coup, il y a vraiment ces deux points de vue qu'on peut voir, et lui qui du coup est plutôt du côté de la révolte que du maintien du régime en place, il a vraiment l'impression d'être dans un monde qui n'est pas le sien et d'être dans une discussion à table où il ne se sent pas impliqué ni écouté, donc... Ça, c'est peut-être le grand-père aussi comme personnage qui est assez intéressant pour voir cette relation et ces discussions.
Alors, le grand-père est interprété par Dusko Valentić. T'as vu, je te fais...
Ouais, très bien, je te crois.
Je te fais le retour.
En direct.
En direct, tout à fait. On aurait bien voulu vous passer la bande-annonce, mais comme elle est en serbe...
Oui, ça risque d'être compliqué à comprendre, donc on vous invite à aller la regarder directement en ligne si vous voulez avoir les sous-titres en français. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller la voir parce que c'était un film très intéressant et qui permet d'en apprendre plus sur un pays où personnellement, en tout cas, j'en connaissais pas forcément autant.
Et le film sort à l'American Cosmograph ce mercredi 11 octobre.
C'est ça, donc n'hésitez pas à aller le voir, vous verrez, vous ne serez pas déçus.
C'était Chaud Devant Ciné avec Lost Country. Merci beaucoup, Lucas, d'être venu.
Avec plaisir.
Et puis, tu reviens quand tu veux. Hein.
Ça marche. À très bientôt, alors.
Et on se retrouve à l'American Cosmographe, pour ma part, pour découvrir Lost Country. Ce 11 octobre. So, you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always teased.